décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 10, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, on n'est que tous les deux cette semaine.
Eh oui, en comité restreint.
Bon, c'est toujours les meilleurs qui sont là.
on va dire ça. Allez, vas-y, démarre sur le sommaire.
Nouvelle République de l'oxygène pour les 30 ans du web, de Agnès Orousseau.
Donc, ça parle du web parce qu'on le fête en ce moment. Donc, Tim Berners-Lee, son créateur officiel, est fêté dans la foulée. Mais on parle aussi de tout ce qui se passe de pas bien sur Internet. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y a des bonnes choses, le logiciel libre en fait partie, la collaboration globalement. Donc il y a quelques articles qui sont sortis cette semaine sur le sujet.
Dieu, tu veux dire Tim Berners-Lee, c'est ça, non ?
Tim Berners-Lee lui-même. Si, hein, Tim Berners-Lee.
Le Big Data, Apache Software Foundation, tout savoir sur l'ASF et ses projets Big Data, un article de Bastien L.
Alors, plutôt intéressant, un article qui parle justement d'une fondation, un peu comme la FSF, qui fait plein de logiciels pour Internet.
FSF, Free Software Foundation.
Et là, c'est l'Apache Software Foundation, et c'est pas tout à fait la même philosophie de travail, c'est intéressant, mais ils font plein de choses.
Basta, grand débat, pourquoi la plateforme de consultation en ligne est vivement critiquée pour son opacité, un article de Rachel Kneibel.
Donc c'est pire que de l'opacité, c'est qu'en plus c'est du logiciel privateur, alors que la boîte qui est derrière, une petite start-up, avait promis à une époque de le mettre en logiciel libre. Donc il y a plein de choses à discuter là-dessus. Pourquoi est-ce que l'État passe par cette entreprise qui fait du logiciel privateur, alors qu'il y a d'autres alternatives, notamment il y a des Espagnols qui font des choses qui ont l'air intéressantes.
On se demande bien pourquoi. Usine Digitale, 8 questions et leurs réponses que vous devriez vous poser sur la taxe GAFA, un article de la rédaction.
Eh bien, la taxe GAFA, je pense que ça va être un sujet qui va durer. C'est la France qui, pour une fois, est courageuse et qui dit, voilà, on va taxer les grandes entreprises d'Internet parce que, d'habitude, elles passent en dehors de la taxation. Bon, c'est un petit peu choquant. Il y a du travail et puis surtout, il y a des questions parce que c'est assez flou.
Voilà, c'est un sujet de fond. Next Impact, Edward Snowden s'oppose à l'article 13 de proposition de directive sur le droit d'auteur, un article de la rédaction.
Donc Snowden, on le connaît et ben, il défend encore la liberté, notamment contre l'article 13 qui est en train d'être mis en place, soi-disant pour le droit d'auteur en Europe.
Et j'en profite pour rappeler que la famille qui avait hébergé et caché Edward Snowden à Hong Kong, qui étaient des immigrés là-bas, sont sérieusement dans la merde et que Edward Snowden a appelé plusieurs fois à donner des sous pour les aider, pour leur payer des avocats et des trucs comme ça. Donc si vous êtes reconnaissant à Snowden, bah, autant aider les gens qui l'ont aidé. Educavox, les défis éthiques de l'identité numérique, un article d'Armen Kachakourov et Pierre-Antoine Chardel.
Donc ça parle de données notamment et de RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données. Donc la vie privée est en jeu, c'est très compliqué, mais il y a plein d'enjeux éthiques autour de cela. C'est à creuser, encore une fois.
Développé.com, le verrouillage radio de l'UE rendrait impossible l'installation de logiciels alternatifs sur les smartphones routeurs Wi-Fi. Un article de Stan Atkins.
Donc encore une initiative européenne qui ne nous enchante guère. En gros, au nom du contrôle des ondes radio, eh bien, il est question d'imposer des logiciels probablement propriétaires sur tous nos appareils qui peuvent faire de la radio. C'est embêtant, notamment bah, sur nos téléphones.
Donc le sujet de la semaine, on l'a annoncé la semaine dernière, donc c'est Marcos, un auditeur, qui nous a suggéré de parler de données personnelles et conservation des données personnelles.
Gros sujet, vaste sujet.
Oui, donc déjà, une donnée personnelle, c'est quoi exactement ?
Alors, c'est ce qu'on accumule autour de nous au cours de notre vie. C'est toutes les traces numériques qu'on a laissées, les photos qu'on a créées et qui nous contiennent, les textes qu'on a faits ou qui parlent de nous, les enregistrements sonores qui nous concerne et toutes nos possessions numériques.
Également toute notre paperasse, nos feuilles de paye, toutes ces choses-là.
Relevé d'identité bancaire, les copies de nos documents d'identité éventuellement.
Voilà, et d'autant plus que tout ça s'informatise de plus en plus.
C'est la dématérialisation et moi je trouve ça très bien.
Et donc effectivement il y a cette vraie question de comment on fait pour gérer ces données personnelles. Alors à la fois pour ne pas les perdre, également pour ne pas se les faire piquer.
Donc c'est deux objectifs qui sont contradictoires.
Voilà. Et c'est un vrai sujet. Et donc, bien souvent, y a plein de gens qui ne les gèrent pas du tout au final. Hein.
Moi, j'ai un cas. Hein. On a Mag, qu'on connaît bien. Et Mag, qui participe souvent au podcast, eh bien, on a parlé avec elle du sujet. Et en gros, sa stratégie, c'est qu'elle s'en fiche. Elle ne conserve presque rien.
Voilà. Donc, du coup, sa fiche de paye, tout ça, rien du tout.
Elle a sous format papier à sa librairie, parce qu'elle est sa propre patronne. Donc, les fiches de paye qu'elle a émises, c'est la librairie qui les garde pour elle. Ses relevés d'identité bancaire, elle en a des versions papier qui sont stockées dans différents papiers.
Donc, tout papier.
Mais tout papier. Et en numérique, eh bien, quand elle change d'ordinateur, je la vois faire de temps en temps, eh bien, elle s'en fiche. Elle ne copie rien d'un ordinateur à l'autre. Elle se base sur des boîtes mail. les boîtes mail qui lui sont fournies par différentes associations ou par son entreprise, eh bien, c'est là-dedans que finalement, il y a des données dont elle peut avoir besoin à nouveau, et elle va repiocher dans ses anciens mails, à faire un peu d'archéologie personnelle.
Voilà, donc ça, gérer ses données personnelles par le mail, ça c'est une mauvaise habitude.
Qu'on ne partage pas du tout, toi voilà, et moi.
Moi, jamais je ne fais ça, jamais, jamais.
Jamais, jamais, jamais.
Toi non plus, hein, nous, non, on est responsables, on est organisés.
On stocke tout voilà, sous forme propre.
On est irréprochable.
Mais ça marche bien, le stockage de quelques infos dont on a besoin, les stocker sous forme d'email. Moi, j'ai même stocké des contacts avec d'anciens collègues, par exemple, sous forme d'email. Je remonte dans un historique d'échange et je peux retrouver comme ça avec qui j'ai discuté, de quoi. C'est plus facile que d'avoir tout noté sur un papier.
Oui, après, il faut retrouver les emails quand ils sont un petit peu en vieux. Les moteurs de recherche dans les logiciels d'email, ils sont pas toujours très, très efficaces. Même des grands spécialistes de l'exploitation des données comme Google, par exemple. Donc, j'ai arrêté Gmail il y a quelques années. Mais j'ai pu expérimenter le fait que le moteur de recherche de Google, il est loin d'être aussi performant qu'on veut bien le croire.
Et exhaustif.
Et il y a des mails que je n'ai pas retrouvés alors que j'avais des mots-clés extrêmement précis et que j'ai retrouvé par d'autres biais. J'ai pu vérifier que le mot-clé précis était bien dans le mail, que je ne m'étais pas trompé, que ma mémoire ne m'avait pas fait défaut. Alors c'est une des faiblesses, hein, c'est qu'il faut s'en souvenir déjà. Hein, c'est pas une méthode de classement très efficace, surtout avec ma mémoire. Et donc même Google, qui sont censés être des champions absolus de la recherche d'informations, ils perdent des mails.
Ils les perdent, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas indexés, ils ne te permettent pas de les retrouver facilement, mais ils sont probablement quelque part dans... le stock.
Quand on a perdu quelque chose, c'est toujours quelque part en général.
Oui, mais tu pourrais les avoir effacés. Oui. Et c'est ça la petite chose des données personnelles, c'est que quand on les a effacées, qu'on ne les a plus du tout sur aucun support qu'on avait éventuellement dupliqué, ça peut être embêtant. Par exemple, donc perdre ses fiches de paye, ça peut être embêtant à long terme si on veut revendiquer des droits et qu'on n'a plus du tout de traces. À un moment donné, on est obligé de redemander à celui qui l'a émise. À certaines époques, les fiches de paye étaient tout simplement perdues si on ne les avait pas sous format papier avec soi.
Mais aujourd'hui, c'est informatisé et normalement stocké quelque part.
Alors, on peut s'y attendre, mais je crois qu'il y a encore des requis de conservation sous une forme ou une autre pendant un certain nombre d'années, et que les fiches de paye font partie des choses qu'on recommande de garder à vie, mais que les factures, les relevés d'identité bancaire, par contre, eux, ont des durées de stockage requises plus courtes, genre 5 ans, 3 ans, des choses comme ça.
Alors, si on veut faire mieux que de mettre ses données dans son mail, comment on fait pour stocker, archiver, etc. Toi, tu fais comment, par exemple?
Alors, moi, j'ai un système qui n'est pas hyper compliqué. J'ai un répertoire sur mon disque dur, dans lequel je mets...
Mon disque dur, il est où? Il est...
sur mon ordinateur portable perso, et dans ce répertoire, j'ai un classement par catégorie, et ensuite, à l'intérieur, je classe tout par année, mois, jour. Tous les fichiers sont renommés en année, mois, jour. Je garde le fichier sous son format original. On va en reparler, mais ça peut être déjà en soi un peu compliqué. Mais je stocke tout, donc catégorie, et ensuite année, mois, jour. Ça me permet de bien classer tout proprement.
Supposons que demain, il y a un type qui te vole ton ordinateur portable et qui se bat en courant avec. Et sans doute, t'es foutu, du coup, t'as tout perdu.
J'ai deux autres stockages. J'ai un stockage sur une machine virtuelle dans le nuage Internet. Donc sur cette machine virtuelle, je reproduis ce répertoire régulièrement. Et j'ai un stockage sur un disque dur externe. Je compte sur ces trois environnements pour pouvoir m'y retrouver en cas de rupture de mon ordinateur. Je touche du bois, je croise les doigts, ça ne m'est pas encore arrivé. Je n'ai jamais perdu un disque dur d'ordinateur comme ça du jour au lendemain. J'ai toujours eu le temps avant qu'il arrive quelque chose.
J'ai dit le truc du vol, il peut cramer. Hein.
Et dedans, je garde des trucs qui datent de mon collège. Les premiers programmes informatiques que j'avais, je les ai encore dedans et je compte les garder ad vitam aeternam.
Toi, tu es un vrai conservateur.
Alors, il y a un terme pour soi, les gens qui conservent tout, qui ne jettent rien, mais je sens, mon travail, c'est informaticien, je veux garder l'information. C'est la base, c'est la nécessité. Alors, il y a un problème qui va avec ça, c'est comment, et surtout, avec quel choix de format on garde tout ça. Et ça m'embête bien, parce que je ne suis pas certain à 100% que les logiciels que j'utilisais lorsque j'étais au collège fonctionnent encore aujourd'hui.
Oui, et il y a à la fois les formats et les disques durs. Parce que si on met un truc sur un disque dur il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans...
Ou sur une disquette, c'est pire encore.
Ou une disquette, pire encore. On n'est pas sûr que le truc... la disquette, elle survive très longtemps. Et puis, si le disque dur, il a une durée de vie plus importante, est-ce qu'on va encore trouver des prises compatibles pour le brancher? Donc, ça veut dire que ces données-là, il faut les faire vivre et il faut les transvaser régulièrement sur des nouveaux supports qui sont technologiquement valides. Ce qui fait que si c'est des archives qu'on oublie dans un coin, on a toutes les chances de les perdre.
Et ça va être inévitable.
L'autre problème qui est purement logiciel, qui est effectivement les vieux formats qui avaient cours il y a 15, 20 ans, etc. Est-ce qu'on est capable de les lire maintenant? Est-ce qu'on sera capable de les lire dans 50 ans? On n'en sait pas grand-chose.
C'est pas garanti, surtout s'il s'agit de logiciels qui ne sont pas des logiciels majeurs. Je veux dire, Word, on peut s'attendre à ce que Word soit encore lisible dans 50 ans. J'ai assez confiance là-dedans.
Mais il y a 12 000 versions.
Alors, c'est un problème en soi, d'ailleurs.
Et moi, j'ai déjà essayé de relire des trucs que j'avais fait dans ma vingtaine.
Avec Word.
Avec Word, et en utilisant le Word qu'on me force à utiliser au travail. Et bah voilà, du Word 2 ne passait pas. Alors tu pouvais installer un petit logiciel, donc un petit complément fourni par Microsoft, mais il faut le savoir. Il y a plein de gens qui ne savent pas que ce truc existe, et puis il existera jusqu'à quand. Est-ce qu'un jour, ils vont pas dire, bon, il y a un ras-le-bol ? Nous, ça ne nous intéresse pas.
Alors il existe une alternative qu'on connaît tous les deux, qui marche assez bien généralement, parce qu'ils ont dû se batailler avec les formats de Microsoft, c'est LibreOffice, qui est connu pour ses ses filtres d'import.
Dans X décennies, à un moment, ils vont peut-être dire, bon, on ne va pas dépenser les maigres moyens qu'on a à être compatibles avec les trucs antédiluviens.
Et ça, ça concerne les logiciels Microsoft, qui sont la plus grosse, ou qui étaient la plus grosse entreprise au monde, et donc ces logiciels-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plein de gens qui aient un intérêt à garder le format et une compatibilité dans le format. Mais d'autres logiciels un peu plus obscurs, qui ont été utilisés juste par quelques entreprises ou dans un pays en particulier, il y a encore moins de certitude que les données seront lisibles.
Tout à fait. Et même d'une version à l'autre. Parce qu'ils peuvent faire une mise à jour du logiciel, le format n'est plus lisible parce que bon, ben voilà, ils s'en foutent.
Alors il y a des entreprises qui sont concernées par cette problématique-là, des grosses boîtes comme Boeing, Airbus, les plans des avions, ils doivent pouvoir être lisibles 50 ans après.
Oui.
Et donc eux, ils ont des problématiques de conserver tout ce qui fonctionnait à l'époque. Donc eux, c'est pas des données personnelles, c'est loin de là, mais cette problématique, elle touche tout le monde à un niveau ou un autre.
Alors, on a aussi les services fournis par des banques, notamment, avec les coffres-forts numériques. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces trucs-là ?
Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on fait déjà confiance aux banques avec notre argent, ce qui me paraît quand même important.
Oui, une confiance relative quand même.
Alors, il faut que ce soit relatif, c'est nécessairement relatif, mais si on fait confiance à une banque avec notre argent, ça me paraît logique qu'on puisse faire confiance à la banque aussi avec des données personnelles. Et donc, mettre des fiches de paye sur sa banque, ça me paraît pas...
L'informatique bancaire a quand même pas très bonne réputation.
Alors, ça peut être une qualité, parce qu'effectivement, ils sont rarement au goût du jour, mais ça veut aussi dire qu'ils sont capables de gérer le temps qui passe, normalement.
Alors, on a aussi cette problématique. Moi, je l'ai dans mon boulot, par exemple. Mon boulot a mis en place un coffre-fort électronique. Et donc, du coup, mes fiches de paye arrivent là-bas. Et moi, j'ai un autre coffre-fort électronique à la poste, donc j'ai deux coffres-forts électroniques. Et du coup, il y a ce risque d'avoir la multiplication des coffres-forts, et du coup, on aurait pu savoir où on a ces données. Donc là encore, il y a du boulot pour les transvaser, s'assurer qu'on n'a pas simplement perdu des trucs dans un coin quelque part.
Et tu as confiance dans le fait que certes, ils vont les conserver, mais aussi qu'ils ne vont pas les partager avec la NSA, par exemple. La NSA,
on n'en sait rien.
L'agence américaine, par essence, qui conserve tout.
C'est toute la problématique, c'est pour ça que c'est important d'être maître de ces données, c'est que on n'est jamais sûr. Alors, il y a toujours ce risque aussi de se faire pirater ces données. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire avec mes photos, etc. Avec des données personnelles, il y a l'usurpation d'identité qui est vraiment, quand ça tombe sur quelqu'un, j'ai un collègue à qui c'est arrivé.
Moi, j'ai perdu 4 000 euros.
Là, c'est très, très chiant. Toi, t'as perdu 4 000 euros.
Je les ai récupérés plus tard. La banque a bien vu qu'ils s'étaient trompés dans leur procédure, mais il y a eu 4 000 euros. Quelqu'un s'était pointé dans une agence avec un passeport qui me correspondait.
Ces problématiques, elles sont présentes. Et les données perso, ce qui est intéressant aussi, c'est que leur valeur, elle est relative aux personnes. Donc, Mike ne garde rien. Toi, tu gardes tout. On peut avoir des valeurs sentimentales aux choses. J'ai souvenir, lors d'une animation, avoir croisé une dame qui voulait récupérer une vidéo de sa mère dans son iPad. Elle n'arrivait pas à le sortir. Je ne sais plus si c'est parce que l'iPad ne marchait pas bien ou si c'est parce que c'est mal branlé, parce que Apple n'a pas envie que les gens sortent leurs infos et préfèrent que tout reste dans leur univers.
Dans leur petit jardin.
Voilà. Le fait est que sa mère était très malade et qu'il ne lui en restait plus pour très longtemps, et que pour elle, cette vidéo était essentielle parce que c'était un des derniers souvenirs qu'elle avait gardé de sa mère.
Alors, il va rester cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on laisse en héritage une fois que nous, on est passé de vie à trépas ? Comment on s'assure que les données qu'on a générées seront encore accessibles ou au contraire qu'elles seront effacées ?
Oui.
Ça reste compliqué, ça aussi.
Parce qu'il y a aussi des traces qu'on n'a peut-être pas envie de laisser. On a peut-être des choses, une vie secrète, des trucs dont on n'est pas fier.
Tu es Batman ?
Non, je suis Robin. on a peut-être des trucs qu'on n'a pas envie que ce soit notre héritage. Et puis si on meurt du jour au lendemain comme ça, paf, dans un accident, potentiellement, ces choses-là, elles sont accessibles. C'est peut-être pas le souvenir qu'on a envie de laisser à nos proches.
Et d'ailleurs, je dirais, il faut laisser à quelqu'un un accès aux données personnelles qu'on a et qui peuvent être nécessaires ou utiles à quelqu'un d'autre. Les accès à un serveur de données pour une entreprise, il ne faut pas que seul le dirigeant de l'entreprise les possède, par exemple.
Oui, ça nous rappelle une petite histoire récente. Donc, il y avait un service, une sorte de banque en ligne pour une crypto-monnaie, donc qui n'est pas le Bitcoin, mais une autre, mais peu importe.
L'équivalent.
Voilà. Et le gars qui avait le mot de passe, il est mort subitement. Et il était le seul à avoir le mot de passe. Et donc, ils ont l'équivalent de 200 millions de dollars qui sont coincés dedans, donc tous leurs clients.
Alors, je crois qu'ils ont réussi à déchiffrer le truc. T'as peut-être pas suivi le dernier truc. Et il semblerait que les dollars avaient été perdus avant. Donc, on ne sait pas exactement ce dont il s'agit. Mais il y a des rebondissements dans cette histoire. Ça n'empêche que la mort subite de quelqu'un a bloqué un accès parce qu'il était le seul à posséder cet accès.
Donc, voilà. Donc, il y a cette question. Nos données personnelles sont aussi les données de nos proches, au final. Et donc, il faut penser à leur sécurité, à leur pérennité et également à leur effacement quand on souhaite effacer des choses. Et donc, il n'y a pas de méthode parfaite,
non.
Si ce n'est au moins de ne pas avoir tout au même endroit et de réfléchir à ce qui n'est pas un point...
Un point où ça peut être tout détruit d'un coup, il n'y a plus aucune trace.
Voilà, ou perd complètement le contrôle. Hein. Si on a tout dans son mail et quelqu'un arrive à piraner notre mail, et ben, lui, elle est partie et c'est lui qui la contrôle. Un sujet intéressant, merci à Marcos de nous l'avoir proposé. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.